Entraide.
Partage.
Droit de l'enfant.
Commerce équitable.
Partage.
Association.
Droit de l'enfant.
Entraide.
Festival des solidarités.
Bonjour à toutes et à tous. Nous voilà réunis pour le premier jour du Festival des Solidarités 2019, autour des élèves de 5e B. Cette année, le programme du FestiSol à l'EUREA s'étend sur 2 semaines avec plus de 20 événements ou thèmes variés. Le réchauffement climatique, les droits de l'enfant, l'inégalité, l'agriculture, durable ou encore le commerce équitable. Ces événements ont été organisés avec l'Association des Solidarités de Mâcon et de Cluny.
Cette première journée est consacrée au thème des inégalités et du réchauffement climatique. Les cinquièmes ont enquêté sur le sujet des inégalités car la situation s'aggrave. Depuis 40 ans, les inégalités augmentent dans presque tous les pays du monde. Nous écouterons les chroniques de nos journalistes qui nous présenteront les inégalités dans le monde à travers l'animation et le travail, l'alimentation et le travail d'un photographe américain. Dans la deuxième partie de l'émission, nous irons prendre l'air de montagne pour aborder un autre sujet problématique, le réchauffement climatique. Puis, nous échangerons avec nos deux invités du jour, Monique et Marie, de l'association Artisans du Monde.
Solidarité.
Solidarité. Solidarité.
Solidarité.
Un photographe américain a eu une bonne idée pour illustrer les inégalités dans le monde. Entre 2004 et 2007, il a parcouru le monde avec sa femme pour photographier les habitudes alimentaires dans de nombreux pays. Pour chaque pays, il a suivi une famille, chacune d'elles et photographier devant la nourriture consommée durant une semaine. Cette exposition est affichée dans la salle polyvalente de l'EUREA et les élèves vont vous présenter ces familles.
En Équateur, en Amérique centrale, cette famille consomme essentiellement de céréales, des fruits, des légumes et des pommes de terre. Il n'y a pas de viande ni poisson. Seulement une vingtaine de produits alimentaires apparaissent sur la photo. Et ce sont des produits non transformés.
Changement de continent avec la famille Dong qui vit en Chine, dans un bel appartement en ville, et fait ses courses dans un supermarché. Sa consommation rejoint celle des familles des pays développés. Cette famille chinoise est assez riche, même si son pays n'appartient pas aux pays développés.
Après l'Amérique centrale et l'Asie, allons faire un tour en Afrique, au Mali. La famille photographiée est composée de 15 personnes. On constate que leur alimentation est très peu variée. Ils se nourrissent principalement de céréales car c'est facile à produire et peu cher. Il n'y a pas de viande à cause de son prix élevé. Les fruits ne sont disponibles qu'au moment des récoltes, contrairement à d'autres familles. La famille Natomo ne consomme que de l'eau qui proviennent du puits et du village. Pas de boissons sucrées, ni de produits transformés et emballés, comme nous pourrons en voir sur la table des familles des pays développés dans la deuxième partie de l'émission.
Avant de poursuivre notre dossier sur les inégalités dans le monde, revenons en France et écoutons en musique le témoignage des élèves de 6e sur le sujet.
Moi, président du monde, l'école serait gratuite et surtout je donnerais des maisons à toutes les personnes pauvres.
Moi, président du monde, je ferais tout pour que les enfants aillent à l'école, que les enfants ne manquent de rien.
Je vais donner 1 000 euros à ceux qui n'ont pas d'argent. Je vais donner des vêtements, le matériel pour l'école, L'hôpital, je vais le faire gratuit pour tout le monde. Et moi, président du monde, je vais arrêter les pays. Tous les pays, bah, ils font de la guerre et ça me fait la paix. Pour eux, bah, y a, après, il y a beaucoup de morts.
C'est qu'il y en a qui sont entre pays qui sont en guerre, un autre pays qui est pauvre, des familles qui vivent dans bidonville. Il y en a qui mangent des cailloux, qui
jouent avec. Si vous passez les personnes, mettez-vous à leur place. Ils n'ont pas d'électricité,
aussi, ils sont bien, qui vont même et ça cause de l'école. Et c'est pas du tout normal, parce que dans le règlement des droits de l'enfant, tout le monde a les mêmes droits.
Ce que je trouve injuste, c'est que les enfants n'ont pas de jouets, car ils ont fait la guerre. C'est des enfants soldats.
Et nous, on a beaucoup de chance pour être en France. En France, l'école est gratuite. Parce que sinon, étant en Afrique, on ne pouvait peut-être pas aller à l'école, ni manger, ni boire.
Moi, président, j'ai déjà des enfants qui viennent de loin pour aller à l'école, pour acheter leur maison et apprendre le français. Apprendre le français.
Pour un monde plus solidaire, il faudrait que les filles et les garçons soient égaux pour qu'ils puissent partager leur école. Leur
j'ai envie que les enfants aillent à l'école.
Gratuite pour eux. Comme en Afghanistan, et ben, y a les garçons, et ben, ils peuvent aller à l'école et tout, et les filles doivent rester chez elles enfermées.
Moi, président du monde, j'ouvrirai un restaurant pour les Chinois, les Africains et les musulmans. Avec des menus adaptés à leur région.
Pour un monde plus solidaire, il faudrait que les écoles soient moins chères et l'essence aussi.
Ce qui me fait de la peine, c'est qu'on ne donne pas de l'argent aux pauvres.
Moi, président du monde, j'aimerais qu'il n'y ait plus personne qui dorme dehors.
Moi, président du monde, je veux lutter contre la pollution. Je me battrai pour une terre plus propre.
Ce qui me fait de la peine, c'est qu'il y a plein de baleines, d'animaux marins qui se retrouvent sur les plages. Il y a aussi trop de plastique.
Moi, président du monde, je m'occuperai de la terre parce qu'il y a trop de déchets et c'est trop pollué.
Les animaux marins, même les petits poissons.
Parce que la terre, elle demande juste un petit peu, ça va.
Moi, président du monde, moi je pense que si tout le monde s'unit, on pourrait arrêter tout ce fiasco. Moi je pense qu'il faudrait changer. Il faudrait changer le monde. Voilà. J'espère que vous aurez compris et qu'on se souviendra pour tout ça.
Merci aux élèves de 6e pour ce programme car il va en effet falloir s'unir pour lutter contre les inégalités. Pour finir d'être convaincus, présentons encore 3 exemples de pays de l'exposition à table.
En Égypte, la famille Ahmed mange beaucoup de légumes et peu de viande. Elle consomme peu de produits transformés. Notre alimentation doit être variée pour couvrir tous nos besoins énergétiques. On doit manger beaucoup de fruits et de légumes et éviter les sucreries entre les repas. Or, dans les pays développés, la consommation mondiale de viande a doublé en 15 ans. Ce qui provoque des problèmes de santé, comme l'obésité.
Le Japon est un pays développé, mais avec des habitudes alimentaires liées à celles du continent asiatique. La famille Ukita, au Japon, mange beaucoup de poissons, de légumes, de sauces et de soupes. Elle mange plus de poissons que de viande, car le Japon est une île où le poisson est abondant, mais où les prêts pour l'élevage des animaux sont réduits. La géographie d'un pays, son climat, ses reliefs, influencent donc la façon dont ses habitants se nourrissent. Terminons avec une visite par un autre pays européen, Allemagne. Cette famille européenne mange beaucoup de charcuterie et de produits laitiers. La viande et les poissons sucrés occupent la majorité de la table. Cette famille a au moins 6 fois plus à manger que la famille malienne en Afrique.
Nous ne sommes donc pas tous égaux devant la nourriture. Pourtant, il y a assez de nourriture pour tout le monde. Malheureusement, elle est mal répartie. Les pays du Nord ont en moyenne un budget plus important pour se nourrir que les familles des pays du Sud. De 20 euros par semaine au Mali pour 15 personnes à 213 euros en Allemagne pour 4 personnes. Il existe des fortes inégalités dans le monde. Les pays riches, au nombre d'une trentaine environ, représentent 20% de la population mondiale, mais ils détiennent 80% des richesses.
Solidarité.
Solidarité. Solidarité. Solidarité. Allez, Lengue. Solidarité. Solidarité. Allez, Lengue.
Revenons en France pour aborder un autre sujet qui pose problème, celui du réchauffement climatique. La classe de 5e et de 4e et de 3e de l'EREA sont engagées dans un projet de la Fondation Tara Océan sur le sujet. Les élèves de 5e ont mené une première enquête en altitude pour étudier une des conséquences les plus visibles du réchauffement, la fonte de glaciers. Rendez-vous à Chamonix et au pied du 3e plus grand glacier des Alpes de la mer de glace.
Alors bonjour les petits reporters, donc moi je me présente, je m'appelle Fanny, je suis accompagnatrice en montagne au centre de la nature montagnarde à Sallanches, tout près de Chamonix. Alors là on se retrouve à Chamonix pour une journée à la découverte des glaciers du Mont Blanc. On va aller en voir un très particulier qui est la mer de glace qu'on connaît dans les histoires, dans des peintures. Alors pour aller voir la mer de glace, elle est plus haut à 1900 mètres d'altitude, on va aller voir le glacier. Et on va se retrouver au Montanvert. Donc on va prendre le petit train du Montanvert. Là, on va partir de 1000 mètres d'altitude et on va se monter jusqu'à 1009. Et après, on va redescendre avec une petite randonnée pour aller voir le glacier d'un peu plus près. Après, on pourra remonter et aller visiter le site du Montanvert.
Et tout le monde est prêt, allez.
La caméra, elle tourne. Ouais.
Alors, vos impressions, mademoiselle?
Ça fait super peur.
Qu'est-ce qui fait peur?
Le train, le tunnel.
Waouh! C'est là le Mont Blanc.
Allez, par ici.
Ça va pas. Oh.
Suivez-moi. C'est trop beau. Alors, on est arrivé devant la mer de glace. La mer de glace, est-ce que vous avez trouvé où elle est?
Oui. Oui.
Alors, elle est où?
Là.
Ah bon, c'est ça la mer de glace?
La mer de glace, c'est le plus grand glacier de France. Elle va mesurer un peu moins de 11 km de long. On va dire 11 km. Donc là, en bas, c'est la fin du glacier de la mer de glace. C'est ce qu'on va appeler son front. Il n'est pas de la même couleur que là-haut, il est tout gris, recouvert de cailloux et de poussière. Cette mer de glace, elle va mesurer en hauteur jusqu'à 300-350 mètres de glace. Dis-nous, faut quoi pour avoir des glaciers ? Il nous faut de la neige. Alors il nous faut 7 à 10 ans de neige pour que la neige tout en bas soit suffisamment écrasée pour qu'elle devienne de la glace. La neige qui tombe, c'est remplie de 80% d'air. Donc la neige que vous avez prise là, c'est 80% d'air.
Ouais. Et là, si on appuie, elle se compacte. Et là, ça fait de la glace.
Et ben c'est la même chose qui se passe là-haut dans les montagnes. Maintenant, il faut descendre encore. Jusque là où on voyait les trous, jusqu'où on voyait le fond de la vallée pour la mer de glace. Donc nous, on va descendre un petit peu, on va trouver un ou deux panneaux, puis après, on pourra pas descendre jusqu'en bas. Suivez-moi !
C'est trop mal !
Alors là, on a un petit panneau. 1820. Ça veut dire qu'ici, on est sur une moraine que la mer de glace a créée dans ces années-là. On peut remonter quasiment à 200 ans, la mer de glace, elle était ici. On pouvait s'imaginer, on pouvait traverser de l'autre côté juste en marchant avec les petits crampons. Sauf que depuis, elle fond. On va dire qu'elle a grossi encore un petit peu en 1850. Et puis petit à petit, elle a commencé à diminuer. Quelques petites repoussées, 1880, 1920. Mais ensuite, la fonte s'est accélérée. Et depuis plusieurs dizaines d'années, la mer de glace ne fait que descendre. Elle descend plus de 4 mètres par an, elle est de plus en plus bas. Et en longueur, c'est la même chose. On la retrouve de plus en plus loin de la vallée de Chamonix. Elle perd plus de 300 à 400 mètres par an. Donc elle a déjà perdu plusieurs kilomètres. On la retrouvait à Chamonix encore dans ces années-là. À ce panneau-là, quand la mer de glace était ici, on n'avait pas besoin de monter au Montant Vert. On allait à Chamonix et on voyait déjà le glacier des Bois qui était le bout, le front de la mer de glace.
Quelles sont les causes de la fonte de la mer de glace ?
Alors la mer de glace, elle va fondre pour une raison que toi tu as grandi dedans, tu en as entendu beaucoup parler, c'est le changement climatique. Le changement climatique est lié avec le réchauffement. Les températures planétaires sont de plus en plus chaudes. On a pris une moyenne de 0,75 degrés au niveau de la planète, mais ici, dans les Alpes, les montagnes et en haute montagne, les températures vont monter encore plus. Ça veut dire qu'ici, on a déjà pris 2 degrés. Par rapport à la moyenne mondiale, c'est énorme. Et du coup, bah, tout ça, ça va engendrer plein de soucis. Le premier, c'est effectivement la fonte des glaciers. Notre mer de glace va rétrécir, disparaître au fur et à mesure à cause de ce changement climatique. Mais pas que. On a en face toutes les moraines, les éboulements, qui vont petit à petit être de plus en plus intenses en bas, mais aussi en haut, à cause d'un sol gelé qui va fondre avec les étés de plus en plus chauds, comme les canicules de 2003 et même cette année où on a eu très chaud dès juin 2019. On avait des parapentistes qui étaient torse nu au sommet du Mont Blanc. La preuve qu'il fait très chaud, même en haute montagne. Et notre permafrost, le ciment des falaises, est en train lui aussi de fondre et des pans entiers de montagne peuvent s'écrouler cette année. En été, on a eu déjà plus de 80 écroulements. C'est énorme et ce changement climatique a plein d'impact. Mais ceux qui sont très visibles là où on se trouve aujourd'hui au Montant Vert, c'est le recul de la mer de glace, le recul des petits glaciers autour et les chutes, les éboulements, les écroulements des montagnes autour de nous. Alors on vient de descendre 100 ans de glace. Là on est sur la balise où la mer de glace était présente en 1920. Qui c'est qui était né ? Donc 100 ans, un peu plus de 150 mètres.
Ah, tu sais,
je suis au moins derrière.
Ah oui ?
C'est trop beau.
Il est gros, ça. Il est gros.
Ils attaquent pas.
Il est beau, là. Il a une
belle couleur d'hiver. Il n'y a aucun animal qui attaque l'homme. Il est noir. En hiver, il est bien noir. C'est pour capter les rayons du soleil.
C'est une belle bête.
Il était beau, ici, là. Il y en a plein en hiver, ici. Regardez, on
voit encore les mecs.
Ah ouais.
Ça marche.
Là.
Le chamois, il a des super sabots hein, qui sont très adhérents, qui permettent de s'accrocher sur des pentes très raides. On va voir jusqu'où on descend et puis on va remonter tranquillement. Allez, on va prendre le train.
Please go to the checkpoint.
Merci, Polly.
À très bientôt dans les montagnes.
Nous passons maintenant à la dernière partie de notre émission consacrée à nos invités. Nous recevons aujourd'hui une représentante d'Artisans du Monde, Marie Vasseur. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Marie, vous venez de Bourg-en-Bresse et vous passez la journée avec nous à l'IREA. Nos journalistes aimeront en savoir plus sur Artisans du Monde, un des acteurs du commerce équitable.
Tout d'abord, qu'est-ce que est le commerce équitable ?
Alors, bonjour à tous. Le commerce équitable, c'est une façon de faire du commerce qui soit juste et qui soit solidaire. En fait, dans le commerce international actuel conventionnel, souvent on s'aperçoit que les petits producteurs, les petits paysans ou les petits artisans qui sont situés dans les pays du Sud ne sont pas correctement rémunérés, ne reçoivent pas l'argent qu'ils méritent pour leur travail. Et dans le commerce équitable, on essaye à ce que ce soit plus le cas et à ce qu'ils reçoivent une juste rémunération, un juste salaire.
Pouvez-nous présenter Artisans du Monde ?
Alors, Artisans du Monde, c'est une association qui a été créée dans les années 70. L'abbé Pierre, qui a aussi été à l'initiative du mouvement Emmaüs, a été à l'initiative du mouvement Artisans du Monde. Et l'idée, justement, c'est, au lieu d'aider les pays du Sud, les pays pauvres, en leur envoyant de l'argent, plutôt que de les aider, de faire du commerce avec eux. Pour justement leur donner de l'argent, mais à travers le travail qu'ils font, en fait, le cacao qu'ils produisent, l'artisanat qu'ils peuvent réaliser. Donc Artisans du Monde a été créé, cette association a été créée pour promouvoir ce commerce équitable, mettre en place des filières et créer des boutiques, comme à Mâcon.
Combien d'argent reversez-vous aux artisans ?
Alors, c'est difficile de vous donner un chiffre comme ça. En fait, on leur demande combien ils dépensent d'argent pour faire leur production, pour produire par exemple leur cacao. On se met d'accord en fait sur un prix et ils reçoivent une prime par rapport au fait qu'ils soient dans le commerce équitable et qu'ils soient labellisés, certifiés. Et cette prime, elle est utilisée par les coopératives de producteurs ou d'artisans pour la communauté. C'est-à-dire que c'est de l'argent qui va être réinvesti dans la communauté pour, par exemple, créer des écoles, des hôpitaux, des routes, des choses qui sont utiles à tout le monde, à toute la communauté et pas seulement aux travailleurs.
Avec combien de pays travaillez-vous ? Pouvez-vous donner des exemples de pays ?
J'ai pas le chiffre en tête du nombre de pays avec lesquels on travaille. Par contre, je peux vous donner des exemples. Pas plus tard qu'au mois de mai dernier, on a reçu un producteur du Pérou, producteur de café, qui représentait la coopérative avec laquelle on travaille. On travaille aussi avec l'Inde, notamment au niveau de l'artisanat. Ils sont très très forts en artisanat, en création de bijoux, d'écharpes, de sacs à main. Et on va recevoir une coopérative au mois de janvier, fin janvier, de deux indiennes qui vont venir nous montrer leur artisanat à Bourg-en-Bresse. Voilà les exemples qu'on peut avoir.
Quel est votre rôle dans l'association ?
Moi, mon rôle dans l'association, donc je suis dans l'association Artisans du Monde de Bourg-en-Bresse. Je suis salariée pour cette association. Et mon rôle, c'est de venir dans les écoles comme aujourd'hui à l'IREA pour faire des animations et sensibiliser, parler de ensemble des inégalités.
Pourquoi travaillez-vous dans cette association ?
Je travaille dans cette association parce que moi, à la base, j'ai fait des études en biologie et en écologie. Et j'ai travaillé plusieurs années pour la préservation de la biodiversité. Et puis je suis partie voyager. Je suis partie voyager quelques mois en Afrique de l'Ouest. Et ça m'a marquée, ça m'a profondément marquée. Et à la suite de ce voyage, j'avais envie de retourner en France pour faire progresser mon propre pays. Et il se trouve que je suis tombée sur l'annonce d'Artisans du Monde. Et je me suis dit que ça rejoignait énormément d'intérêts que je partage. La consommation responsable et puis essayer de favoriser les populations les plus démunies qui n'ont pas forcément les moyens qu'on peut avoir dans les pays développés et qui malgré tout sont en concurrence directe sur le marché du commerce avec ses moyens plus faibles.
Avez-vous visité des pays lesquels ?
Alors, dans les pays que j'ai visités, en Afrique de l'Ouest, le Togo, le Bénin, le Ghana, le Burkina Faso, Sao Tomé et Principe. Je suis allée aussi déjà au Cap-Vert, au Liban, aussi en Asie du Sud-Est, en Thaïlande, au Myanmar, où on peut appeler aussi la Birmanie. Et je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal.
Savez-vous quels sont les produits les plus vendus dans les boutiques artisans du monde?
Alors là, on va attaquer la période de Noël. En cette période de Noël, ce qui marche le mieux, c'est tout ce qui est artisanat, puisque ça fait des jolis cadeaux de Noël. Des cadeaux de Noël à la responsable, c'est-à-dire éthiquement juste pour les artisans qui les ont fabriqués.
Marie, merci d'être venue jusqu'à nous pour répondre à nos questions. Nous arrivons au terme de cette émission, mais le festival continue encore pendant 15 jours, avec demain le reportage réalisé par les 6e au village des droits de l'enfant à Cluny et une intervention des petits débrouillards. Et nous nous quittons ensuite avec une musique de Dominique Jimet, Touche pas à ma planète, reprise en cœur. Merci à vous et à très bientôt sur Radio Irea en chanson.
Vas-y, chante à tue-tête, touche pas ma planète.